Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte.
Ah, quelle voix! Nana Mouskouri, nous sommes dans les années 70. Et quelle lunette, absolument. C'est une chanson sur le bonheur de recevoir son pays. On va en parler avec notre invité, qui n'est pas grec, mais qui a complètement adopté le patrimoine et la culture grecque. On est à table avec de l'ouzo, quelques olives de Kalamata. On peut dire qu'on y est, monsieur Rubin, là. Hein,
on y est.
On y est. Nabil, vous confirmez ?
On y est plus que ça même, parce que c'est ce dont je raffole, les olives. Voilà.
Si je vous dis cuisine grecque, vous pensez à quoi, vous ?
Eh bien, les olives, justement. Les olives, l'huile d'olive, je me rappelle quand j'étais en Grèce, ce goût des grillades légèrement citronnées, quand on rentre, ça nous frappe tout de suite le nez.
Souvlaki.
Et oui, exactement. Et j'avais un stand où on pouvait composer ces salades, c'était rempli d'olives, je faisais des assiettes pléthore d'olives dedans. Quoi.
Un plat typique de la cuisine grecque, Emmanuel Rubin, pour vous ?
Un vrai souvenir, la fazolada. Vous savez, quand on parle Grèce, on parle de moussaka, de feuilles de vigne farcies. Et pourtant, le plat national grec, paraît-il, est la fazolada. C'est une soupe assez robuste, assez virile, assez robuste, faite de fèves ou de haricots blancs, mélangée à du céleri, de la carotte, de la sauce tomate, très épaisse, finie à l'huile d'olive. On dit que c'est un plat antique, puisqu'il était servi au moment des fêtes qui célébraient tous les sacrifices pour Apollon, c'est-à-dire le mois d'avril. Je l'ai dégusté une fois en Grèce. Écoutez, chaud, froid, c'est une manière de minestrone épais, souvenir très émouvant qui raconte vraiment tout ce fameux régime crétois dont on va peut-être parler.
Et on va en parler. C'est une cuisine qui a le vent en poupe, hein, et qu'on redécouvre depuis quelques années avec des livres de recettes, des traiteurs, des restaurants sous influence. Et nous recevons aujourd'hui une chef qui donne un nouveau souffle à la cuisine grecque dans la capitale. C'est Chloé Monchalin. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Vous êtes née à Saint-Étienne ?
Tout à fait. Hein ?
Donc un peu loin de la Grèce. Vous êtes la chef d'une institution aujourd'hui à Paris. C'est le Grand Café d'Athènes à Paris dans le 10e arrondissement. Et puis de Philakia, qui était un petit restaurant aussi où on peut acheter emporté. J'y suis allé moi la semaine dernière. Pour tout vous dire, acheter mon pain pita avec mes boulettes de bœuf à la menthe à l'intérieur.
Tout à fait, les keftés d'Akia.
Voilà, c'est ça, j'aime bien quand c'est vous qui le dites le nom grec. on prend moins de risques. Et puis, vous êtes mariée à Philippe Chronopoulos, hein, qui est le chef d'origine athénienne. 2 étoiles à Paris, le restaurant du Palais Royal. C'est une institution, c'est un modèle de la cuisine, justement, éco-responsable et grecque. Et puis, vous avez été aussi chef des bistrots de Cyril Lignac. Alors, depuis 2014, vous êtes à la tête, de Philakia, ce petit restaurant grec, et puis du Grand Café d'Athènes. On peut dire que c'est une taverne où tout le monde s'agite en terrasse en bas de la gare de l'Est, hein, le Grand Café d'Athènes. 2 salles, 2 ambiances pour le coup. Hein.
Ah, 2 salles, 2 ambiances. Mais c'est un super quartier où vraiment on a trouvé notre clientèle qui adore venir manger des mets grecs comme ça en terrasse. C'est un quartier très festif, très agréable.
Tiens, on va donner quelques idées de plats aux auditeurs d'Europe 1. Il y a du tarama. Hein,
tarama, bien sûr, le tzatziki qu'on fait maison, évidemment. Et puis après, on revisite tout au long de l'année différentes spécialités grecques. Ou alors des produits qu'on va retravailler un petit peu à notre sauce.
Le fameux spanakopita.
Ah, la spanakopita, on l'a jamais enlevé de la carte.
La spanakopita, absolument, que je conseille de refaire à tous les auditeurs cet été, ça, on est d'accord.
C'est merveilleux. Pour moi, c'est la recette qui a changé vraiment ma vision, enfin qui m'a fait découvrir la Grèce et qui m'a passionné, qui m'a fait comprendre cette cuisine.
Feuille de pâte philo, hein, qu'on superpose avec du beurre fondu. Et puis,
il y a 2 écoles.
Feuille de brique ou pâte philo, c'est ça ?
Alors non, nous on fait une pâte feuilletée à l'huile d'olive, légèrement.
Oui. Ah oui,
on travaille.
Là, oui.
Mais la pâte philo, c'est génial
oui,
aussi.
Oui, je parle pour à la maison, on l'a fait avec la pâte philo.
Mais on peut faire une pâte à l'huile d'olive qui est vraiment délicieuse, qui est assez simple. On a la recette dans le livre.
Épinard retombé.
Mais la pâte philo, ça marche très bien.
Épinard retombé. Hein.
Épinard, voilà, qu'on peut cuire ou qu'on peut cuire simplement au sel, un peu en l'assaisonnant comme une salade.
D'accord. Ouais.
Et on le laisse un peu tomber avec beaucoup d'herbes. Alors là, il faut vraiment être généreux sur les herbes.
Persil menthe.
Et alors surtout, moi, ce que j'aime, c'est l'aneth. C'est vraiment ça qui, pour moi, donne le goût, la saveur inimitable à la spanakopita.
Des œufs, de la feta.
Des œufs, de la feta et du poivre. Beaucoup de poivre. Ça, c'est important.
Elle est très relevée, effectivement, la cuisine grecque. Quand on dit relevée, ça ne veut pas dire épicée, hein, mais ça veut dire effectivement bien relevée et bien équilibrée. Ce que j'aime, moi, déjà, hein, Chloé, avec la cuisine grecque, c'est que c'est une cuisine de produits et qu'on peut tous la refaire. J'entends beaucoup d'auditeurs qui me disent « Ah, mais moi, j'aime bien votre émission, mais je ne cuisine pas forcément. » C'est facile. Tout le monde peut se mettre à la cuisine avec la cuisine grecque. Hein.
Ah, complètement. Parce que c'est tout à fait, déjà c'est une cuisine d'instinct, de produits, une petite épicerie à la maison et on peut se lancer, quoi. Mais c'est une cuisine très simple, c'est une cuisine à l'ancienne.
C'est dans votre belle famille que vous avez eu des coups de cœur et des coups de foudre pour des recettes particulières.
C'est vrai que ma belle-mère cuisine très très bien et j'ai découvert chez elle déjà le poivre. Toutes les recettes, mais très poivrées au début, ça me surprenait énormément. Mais ça donne une dimension au plat complètement différente, un piquant, une fraîcheur aussi.
Et le sumac aussi également
et
dans la cuisine de chez vous.
C'est merveilleux. Nous, on marine toutes nos viandes pour filakia, pour faire nos broches maison, avec du sumac notamment, et un mélange assez complexe. Mais le sumac c'est passionnant.
Qui est une épice, on va dire, avec un côté fruité,
citronné
et
ouais.
acidulé aussi
tout
à la fois. Hein.
Tout à fait. C'est vrai que c'est une très belle épice. Et que j'affectionne particulièrement.
Et du citron, beaucoup de citron dans la cuisine grecque.
Ah, le citron, c'est... On ne peut pas travailler la cuisine grecque sans citron. Et moi, j'ai découvert ça avec la Grèce. C'est vrai qu'on assaisonne, comme vous le disiez, toutes les viandes avec du citron, ce qu'on, je ne crois pas qu'on fait en France. Et ça change tout.
Ça remplace le vinaigre, hein, là-bas. Hein.
Ça remplace le vinaigre.
Exactement. En quelques mots, Emmanuel, c'est vrai qu'on parle de nos familiarités avec la cuisine grecque, avec nos voyages, mais il y a aussi cet inconscient de la fameuse diète méditerranéenne qui nous veut du bien.
Classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010, on fête les 15 ans cette année. Et si on reprend les grands thèmes de cette diète méditerranéenne, on voit la contemporanéité de la cuisine grecque, c'est-à-dire la frugalité, très peu de viande, peu de poisson, beaucoup de légumes, beaucoup de condiments, de jus de citron, vraiment direct à la nature, de l'huile d'olive. La saisonnalité, on cuisine vraiment toujours de saison et pas autrement. La territorialité, c'est une cuisine qui est très ancrée dans son territoire, dans son terroir. C'est lui des îles, mais c'est pas simplement. Et on n'en bouge pas. Le local, le glocal est inventé avant l'heure en Grèce. Et puis surtout, la sociabilité, c'est-à-dire qu'il y a la cuisine et les manières de table. Et ça, c'est ce qui nous rejoint à la Grèce, nous, Français. C'est-à-dire qu'on aime les longues tablées, on aime parler, on aime disserter. La table va délier les langues, et pas que les langues. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup en Grèce. Et puis, on peut aussi dire que la Grèce va immédiatement, dès l'Antiquité, installer un discours gastronomique comme les Français l'ont fait vers le XVIIIe siècle, puisqu'on a des traces, des documents qui nous racontent les plaisirs de la table.
Vous êtes d'accord, Chloé ?
Ah, complètement. Voilà. La table est centrale en Grèce. C'est vrai qu'on y passe un temps infini et on partage tout.
Mais oui, et la place de la femme et de la mère en tant que passeuse.
Et de toutes les générations, c'est commun avec l'Italie, effectivement, ce côté transgénérationnel de la famille qui se retrouve à table, hein, avec les aïeux et les petits-enfants.
Tout et transclasse aussi, c'est-à-dire que le bourgeois ou le populo vont se retrouver autour du même plat, ce qui n'est pas vraiment le cas en France.
C'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine avant de vous donner des recettes de salade grecque, chers auditeurs. Europe 1 vous offre un super wok en inox de chez Christelle, accompagné de son couvercle en verre et de sa poignée amovible qui lui permet de passer aussi au four. Un wok haut de gamme, garanti à vie, sans pifasse pour une cuisson totalement saine. Écoutons le bruit de cuisine. Ah! Est-ce que c'est grec ? Ce n'est pas grec. Vous avez trouvé pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. On se retrouve dans un instant pour décortiquer les salades grecques de l'oriatiki traditionnelle à la dakos crétoise. Il y en a pour tous les goûts et vous allez voir, simple à refaire dès ce week-end.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Qu'est-ce qu'on se régale de retour à table avec Nabil Zemouri, alias Chef Nzem sur les réseaux, et puis Emmanuel Rubin, que vous pouvez lire dans le Figaro, en compagnie de Chloé Montchalin, la tête du Grand Café d'Athènes à Paris, et de Filakia dans le 2e arrondissement, dans le quartier de Montorgueil. Vous avez eu la gentillesse de venir avec de belles olives charnues comme on aime. Mm-hmm. C'est la Kalamata ?
C'est la Kalamata la meilleure.
Petite saumure, salée comme il faut.
Voilà.
Et vous avez mis de l'origan par-dessus ?
J'ai mis un petit peu d'origan, j'aime bien.
Ah bah,
l'origan, c'est un petit peu obligatoire quand on fait de la cuisine grecque.
Oui, vous parliez de l'épicerie à avoir à la maison. Ce serait quoi pour vous les trois incontournables à avoir dans notre épicerie maison ?
Alors, c'est assez basique. Hein, je crois que c'est l'huile d'olive. Le citron, ça, on le compte pas, mais clairement, il en faut.
Oui.
De l'origan frais ou sec, parce que le frais, c'est quand même très difficile à trouver. Et puis, alors, la petite pointe de sumac.
Oui.
Et la feta, non ?
La feta, yaourt grec, les capres, les olives. Mais c'est pas très difficile à trouver. Finalement, avec une dizaine de produits, on agrémente toutes les recettes.
Mais complètement. Alors, trois recettes, justement, faciles à faire à la maison avec vous, Chloé Montchalin. On commence par la plus emblématique, c'est l'Oria Tiki. Alors là, les auditeurs se disent, oh là, ça a l'air compliqué. Pas du tout, c'est la
salade grecque.
C'est la salade grecque.
La salade du village.
Et c'est exactement ça. Vous voyez, moi, vous me parlez de ça. Je suis allé il y a 35 ans en Grèce, dans les Cyclades, à Naxos, Paros. Je suis resté là-bas presque 2 mois. Et ce qui me fascinait, c'est qu'on allait manger chez l'habitant ces salades grecques avec des ingrédients qui sont complètement des incontournables. Alors, on va les rappeler, ces ingrédients incontournables. Hein.
Ah bah alors, la salade grecque, c'est tomate, clairement. Une belle tomate bien mûre, par contre.
Coupée en quartier.
Obligatoire, coupée en quartier. Des concombres, de la feta, de l'origan, des olives, des oignons rouges, bien sûr.
Poivron de temps en temps.
Poivron, mais poivron rouge. Hein.
Poivron rouge, oui.
Bien mûr aussi. Et je crois que c'est tout. Hein.
Et alors, ouais, moi j'ai une petite question.
Alors, huile d'olive, jus de citron.
Et moi j'ai une petite question parce qu'on l'a mise à la carte du restaurant. Il y avait un débat avec mes cuisiniers. On se demandait est-ce qu'on met de la pastèque dans la salade grecque. Et ça a été un vrai débat parce qu'on avait des Grecs qui étaient là justement et qui nous disaient nous, dans certaines régions en Grèce, on met de la pastèque.
Alors
dedans.
Je pense qu'en effet, comme c'est vraiment la salade du village. Il doit y avoir autant de versions que de villages. Mais alors, c'est quand même pas la traditionnelle avec de la pastèque.
Alors,
pas à ma connaissance, maintenant, je suis pas grave.
Pour revenir à la traditionnelle, vous avez parlé de la feta, on en a parlé un petit peu rapidement. Attention, la feta, on ne la mélange pas, comme on a tendance à le faire parfois, avec les autres ingrédients. Hein.
Il y a deux écoles. Chacun fait un peu comme il aime, et ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que moi, je préfère quand la feta est mise à la fin et qu'on sent vraiment toute sa fraîcheur.
Et on met de l'origan par-dessus.
Hein, ça, c'est obligatoire.
Et le filet d'huile d'olive à la fin. Mais c'est vrai que elle vient un petit peu se.
J'aime vraiment le contraste, voilà, entre la feta.
Quand elle est mélangée, c'est vrai que ça devient un peu une éponge.
Certains font un peu la sauce avec la feta. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
C'est pas ce que je préfère.
Tout est possible.
Mais tout est possible.
Mais voilà.
Et si les produits sont bons.
Mais la tradition, c'est vrai que la feta est posée par-dessus.
Oh la vache !
Oh là là ! Oh là là ! Alors, chers
auditeurs. Et non, ça, c'est une dacos.
C'est une dacos.
On s'est fait avoir.
Salade dacos que vous avez la gentillesse d'apporter du Grand Café d'Athènes et qu'on peut retrouver aussi chez Philakia, j'imagine.
Chez Philakia en été, au Grand Café d'Athènes. Ça dépend un peu la saison.
Alors, la dacos, il y a quoi dedans ?
Alors, dans la dacos, il y a une biscotte crétoise qu'on met en dessous, qui va venir s'imbiber en fait de cette préparation qu'on fait assez juteuse. Parce que, alors il faut la déguster assez vite,
d'accord,
pour que la biscotte reste craquante.
Oh là là.
Et en fait, on râpe nos tomates vraiment pour obtenir le jus. Et nous, après, on vient y mélanger des petites tomates cerises. Ouais, tomates cerises bien mûres.
Oh là là, tomates
et alors
râpées.
Après, on ajoute des tomates cerises, des poivrons. Émincé finement, des poivrons rouges où on a bien enlevé la peau pour pas qu'il y ait ce côté indigeste.
De la menthe.
Beaucoup de menthe, des capres, des olives et de la feta.
Et ces biscottes qui sont des grosses biscottes qu'on peut trouver en Grèce, qui sont fabriquées, je crois, avec de la farine d'orge.
Alors, il y a plusieurs sortes, oui. Il y a la farine d'orge, il y a aussi la farine de caroube qui est très bonne.
Et si on les trouve pas ?
Dans toutes les épiceries grecques, à Paris, on en trouve.
Mais quand on ne trouve pas d'épicerie grecque, on peut remplacer par quoi ?
Bah, bon pain.
On peut faire sécher un bon pain.
Voilà.
Si on achète un petit pain complet.
Vos petits pains suédois du petit-déj, là.
Oui, exactement.
Mais ça marche aussi, je le fais de temps en temps.
On détourne. Alors, c'est rigolo parce que c'est un petit peu la cousine de la panzanella italienne, en fait.
Exactement.
Hein, cette recette que l'on fait avec des restes de pain pour ne pas le gâcher, quoi.
Tout à fait. Hein. Et c'est assez réconfortant. Moi, quand j'arrive en vacances à Corfou, on va direct dans notre petit restaurant qu'on adore et on mange cette salade et c'est vraiment...
Mais c'est ça le pouvoir de la cuisine.
C'est l'arrivée en vacances, quoi.
Elle est arrivée au Sud Coluche à l'instant, là, donc on est quoi, le 14 juin. On se sent tout de suite en vacances et en été, quoi.
C'est un bien, alors,
c'est magique.
Un beau volume, hein.
Ah
c'est une salade de volume.
C'est généreux, c'est gourmand.
C'est des salades repas, en fait. Hein. C'est des salades complètes.
C'est des salades repas.
Oh,
après,
petite
on fait une petite grillade.
Dessus,
voilà, on fait une petite grillade à côté. Un pain pita du tzatziki.
Voilà. Les salades d'inspiration grecque sont à la carte de votre restaurant Solemio à Bastia, chef Enzem.
Exactement.
Nabil Zemouri.
Tout à fait, exactement, les amis. Parce que déjà, ça évoque... l'été, indéniablement, et surtout on respecte la saisonnalité. C'est des produits qu'on est obligé de mettre en avant quand la saison nous les offre, ce qui les rend déjà meilleurs. Et puis il y a un réel intérêt de la part des gens pour celle-là. Moi, j'utilise tout de suite l'origan frais qu'on a la chance d'avoir là-bas. Et puis ce qui diffère avec la salade italienne, c'est qu'il n'y a pas de basilic ici. C'est tout de suite menthe, origan, et tout, même si ça ressemble un petit peu à la panzanella, il y a un certain contraste qui se marque parce qu'on n'a pas ces produits caractéristiques.
Voilà. Refaites cette recette à la maison, chers auditeurs. La cuisine grecque, elle vous prend par la main et vous suivez vraiment ces recettes qui sont ultra faciles, Chloé.
Tout à fait. On prend ce qu'on a aussi chez soi. Tout peut s'adapter. Ça m'a pris 15 minutes à préparer ce matin. C'est extrêmement rapide.
Vous
à
avez
faire.
Entendu 15 minutes de belles tomates râpées qu'on peut râper avec la grosse râpe 4 faces qu'on a à la maison.
Ah, tout à fait.
Tomates cerises, de la menthe et puis cette biscotte encore bien rassis dans le fond, bien sèche et qu'on imbibe avec le jus des tomates rendues par la tomate râpée. Une petite dernière pour la route, on pourrait parler de la salade carpouzi.
Ah, moi, c'est une de mes favorites. Alors là, il n'y a pas plus simple. C'est un peu la salade de melon classique. Donc, on va prendre un melon, tout ce qu'on a, un melon, une pastèque, un melon jaune, peu importe. Nous, on la coupe en petits dés. On aime bien. On l'assaisonne, mais alors extrêmement légèrement avec un petit peu de fleur de sel et de l'huile d'olive. Et après, on a mis un petit bloc de feta au congèle qu'on va râper dessus en nuage, une bonne épaisseur.
Ça, c'est un super truc. Ouais,
quelques feuilles de menthe, une goutte d'huile d'olive. C'est fait en 5 minutes et franchement, les gens sont épatés.
Ça, c'est un truc de votre mari. C'est un truc de votre mari, Philippe Chronopoulos.
Hein. Alors, le coup de la feta, c'est lui qui me l'a donné parce que je ne savais pas comment faire vraiment ce moelleux et puis changer un peu la texture. Parce qu'en France, on a du mal à avoir tous les fromages qu'on voudrait, tous les fromages grecs. Donc, on travaille la feta sous différentes formes. Et ça, franchement, c'est magique.
C'est le chef du restaurant du Palais Royal. 2 étoiles au Michelin, il est très bon.
Énorme
chef, absolument. Et qui a un respect, justement, pour les produits d'origine grecque et qui font partie, ces chefs-là, justement, de préserver des métiers, des filières qui nous font le meilleur, justement, du pays. Quoi.
Et qui offrent, c'est vraiment la vertu de la génération de ces chefs-là, de quand ils sont à Paris ou en France, de dresser le dialogue. Donc on est vraiment dans une cuisine au restaurant du Palais Royal qui fait une passerelle comme ça entre la France et la Grèce. C'est épatant, notamment lorsque vous débarquez, la moitié du repas, c'est au moment des milliardises. C'est un mezzé, commence à arriver la carte que tu as déjà plus faim. Mais tu vas quand même avoir faim.
Et ben on essaie de faire cette belle passerelle entre la Grèce et la France. Merci beaucoup Chloé Mochalin.
Merci à vous.
D'être venu à cette table. Filakia, rue Mandar à Paris dans le 2e arrondissement. Le Grand Café d'Athènes, c'est rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e. Et puis votre livre, hein, Le Grand Café d'Athènes, toute l'âme de la Grèce en 80 recettes.
La table des bons vivants, 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte.
Alors on se régale avec la cuisine grecque qui est toujours avec nous au sud de Coluche. Juste avant de recevoir le chef Thierry Marx qui est notre invité aujourd'hui, on a plein de questions à lui poser. Il va nous parler de 2 nouvelles ouvertures concernant ses restaurants. Et toujours à table avec notre chef Nabil Zemouri, alias chef Enzem, penseur en recettes astucieuses sur Instagram. Et puis TikTok aussi. Hein.
Tout à fait. Et puis
vous êtes notre jeune quoi.
Oui, un jeune heureux parce que je viens de recevoir un de vos fameux macarons. Merci beaucoup. J'ai été arrivé un petit peu tard pour le déguster. Il est là sur la table. Oui. Donc je vais pouvoir m'en délecter.
Macaron de la maison Adam de Saint-Jean-de-Luz, on en parlait tout à l'heure. Et puis Emmanuel Rubin est avec nous, la plume gastronomique du Figaro. Alors ils sont là, vous les avez vus hein, sur les étals, ronds comme des ballons, striés et parfumés. Les melons attaquent le début de la saison, mais ils n'arrivent pas tous en même temps. Vous avez remarqué ça quand même, monsieur Rubin?
Ouais, hein, un tout petit calendrier. Alors les premiers, ils nous viennent de...
Cavaillon.
Cavaillon, bravo. Alors les Cavaillonnais sont fiers parce que cette année... ils ont obtenu leur IGP, c'était au mois de février. C'est intéressant parce que ceux qui vont suivre avaient déjà les IGP. Alors, après les melons de Cavaillon, débarquent les melons du Haut-Poitou,
oui.
IGP donc également, et puis les melons du Quercy, là encore, et oui. C'est fini, 3e IGP française.
On protège les melons, alors ouais. Attention, il faut, parce qu'on voit partout marqué melon charentais. C'est pas vraiment une variété, ce serait un cultivar, parce que la vraie variété, c'est le Cantalou, qui est arrivé d'Italie, hein, c'est ça, monsieur Rubin?
Exactement. Donc c'est pas du tout... c'est pas une provenance, c'est pas une négation, c'est même pas véritablement un genre, c'est un peu...
C'est une dénomination commerciale.
C'est ça.
Bravo. C'est plus pour l'identifier, vous savez, avec chaque...
C'est une mythologie urbaine, exactement, quoi. Ouais. Ou mythologie campagnarde.
Exactement, mais en tout cas, il se plaît beaucoup, justement, en Charente, et on le cultive beaucoup là-bas, c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. Hein.
Alors oui, on rappelle, hein, rond avec une écorce vert clair, barré de stries vert foncé, et puis oui. La chair bien orange.
Oui, il y en a qui sont brodés un petit peu aussi. Alors comment le cuisiner pour changer de l'ordinaire? Nous avons fait appel à vos services, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à nous suivre hein, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Ça se trouve sur la page Facebook du compte Europe 1, et nous sommes avec Sylvie au téléphone. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. Bonjour les bons vivants.
Bonjour Sylvie.
Fidèle auditrice, bonjour. Vous nous appelez d'où, oui. Sylvie?
D'Orléans.
Et vous faites quoi dans la vie à Orléans?
Je suis généraliste.
Ah, notre santé passe par l'alimentation, vous confirmez?
Tout à fait. C'est mon quotidien.
Comment vont les gens d'ailleurs? Est-ce qu'ils mangent bien, vos patients, vous trouvez? Ou est-ce qu'il y a une tendance?
De tout, ouais. Il y a beaucoup de gens hyperactifs qui travaillent beaucoup et qui prennent pas le temps. C'est pas ça. Le temps.
Le fameux j'ai pas le temps.
Ni de faire du sport, ni de bien manger. Ouais.
Alors là, vous voyez, on parlait de cette salade grecque, par exemple, de la feta, de la tomate, un morceau, une biscotte de pain rassis, et en route avec quelques beaux filets d'huile d'olive et de la menthe, on est heureux. Alors, c'est la saison du melon, on en parlait, hein, chère Sylvie. Comment vous le cuisinez, vous ? Je sais que vous aimez bien trouver des petits accords pour changer de l'ordinaire.
J'aime bien avec des fruits rouges, d'abord parce que c'est joli, et puis ensuite, l'acidité du fruit rouge va bien avec... avec le melon, et puis des fois je rajoute un peu de pistache salée ou de cacahuète salée dessus, parce que je trouve que le salé va bien avec.
On pourrait mettre presque un petit peu de vinaigre par-dessus ça,
voilà,
non, avec les
fruits
rouges.
Donc moi je suis à Orléans, donc le vinaigre Martin Pourret, je fais de la pub, j'ai pas le droit,
mais si, vous avez le droit.
Le vinaigre Martin Pourret est excellent, et vous écrasez quelques framboises avec du vinaigre Martin Pourret au vinaigre de framboise, et ça fait un petit mélange que vous pouvez mettre dessus, c'est très beau et c'est délicieux.
Ben oui, c'est pour changer du melon au porto et pour changer du melon au jambon. Le poivre aime beaucoup le melon aussi, hein, vous
le poivre de Timut, qui a un petit goût de pamplemousse, c'est pas mal aussi.
Ouais. Ah ouais, rien que ça, vous voyez. Avoir quelques poivres différents comme ça dans nos placards.
C'est
dans
la base des cuisiniers. Ils ont 5, 6, 7, 8 poivres différents. Un poivre de Timut, un poivre de Sichuan, des poivres noirs, tout ce que vous voulez. Et ça, en fonction de ça, on les utilise avec. Et je rebondis sur ce que vous disiez qui est très juste. Quand on le mélange avec les cacahuètes ou les pistaches, ça marche très bien pour la note de sel. Et le melon aime également énormément les herbes fraîches. La menthe, ça, on le sait, c'est classique. Vrai. Mais il va aimer le basilic thaï. On peut utiliser autre que le basilic classique, mais le basilic thaï qui marche très bien avec les cacahuètes d'ailleurs, hein, pour amener ce côté franco-thaï. Il va aimer la citronnelle, la verveine citronnelle aussi. Il aime beaucoup ça. Ouais, et c'est des choses qui poussent en foison chez nous, ça.
Oui.
Des choses comme ça. Ouais. Et en salé, moi, j'aime beaucoup utiliser ce melon avec la salade de pommes de terre. Ce melon orange, oui, tout à fait. C'est des choses qui sont très étonnantes. Une bonne pincée de piment d'Espelette, un trait de vinaigre balsamique blanc, et surtout ce côté sucré avec la pomme de terre marche très très bien. C'est très étonnant, mais vous allez voir, essayez.
Vous travaillez votre melon comme une macédoine, julienne, mélangée à des pommes de terre.
Un mirepoix avec ma salade de pommes de terre, un trait de vinaigre balsamique, parce que le vinaigre balsamique va casser et la sucrosité du melon et va rehausser la pomme de terre.
Voilà. Ça vous tente, Sylvie?
Oui. Et le vinaigre blanc, ça permet de pas teinter les pommes de terre et les...
Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que je parlais sur...
Sinon, ça serait marron, ça serait moche.
Et c'est pour ça qu'on met du balsamique blanc. Tout à fait.
Très bonne idée.
Et vous, le melon, vous le servez à température ambiante ou froid? Parce que nous ne sommes pas d'accord entre amis.
Ça dépend.
C'est compliqué.
Température ambiante, surtout pas de melon au frigo. Déjà, alors surtout quand il est trempé. Il va prendre les arômes et les goûts du frigo, donc ça le flingue complètement. Donc on le laisse à température ambiante, c'est comme les fraises.
Merci. Et comme je suis d'accord avec vous.
Et comme les tomates.
Et comme les tomates.
Tous ces fruits-là. Voilà. Mais oui, nous aussi, ça y est, mais vous nous avez donné faim, justement, avec votre poivre de Timut pour relever le melon. C'est une bonne idée. Et puis, on parlait de la pastèque tout à l'heure avec notre invité, Chloé Montchalin, du Grand Café d'Athènes à Paris. C'est vrai qu'il y a un triptyque qui marche aussi. C'est pastèque, melon et feta.
Ah oui.
Oui.
Ah
oui. Bien sûr. Ouais.
Classique.
Alors c'est simple, classique.
Melon et camembert, c'est bof.
Ouais, mais melon et comté, ça marche.
J'ai bien aimé.
Melon comté.
Melon comté, pas mal.
Eh bien, merci Sylvie pour votre fidélité.
Merci beaucoup.
Et je vous envoie.
Et continuez votre émission.
Oh ben vous êtes adorable. Et je vous envoie un an d'abonnement à ma revue. Tiens, les petits plats avec des recettes de saison et des reportages et des enquêtes partout en France.
Alors, j'ai quand même une question.
Merci beaucoup,
chef. juste, moi, j'ai vraiment toujours, vous voyez, après 40 ans de métier, je ne sais toujours pas choisir un melon. Je suis toujours dans la panique.
Alors,
on va tout dire. La queue, le poids, l'odeur.
C'est un peu tout ça. Mais il faut le sentir.
Alors, il y a quoi?
Alors, le poids déjà, il faut qu'il soit dense. S'il est trop léger, ça marche pas. Il faut qu'il soit quand même dense, qu'il y ait de l'eau, mais pas trop non plus. Le pédoncule craquelé, c'est un indice, moi, je trouve, quand même, ça.
Le pédoncule craquelé, moi, j'aime. C'est vrai que l'odeur, ça joue. C'est vrai que moi, je regarde énormément le pédoncule. Alors, on m'avait donné une astuce. Je l'ai fait. Je sais pas, mais chaque fois, je me trompe pas. Ça marche plutôt bien. D'accord. C'était de compter le nombre de rayures, là, qu'ils avaient. Et plus il y en a, mieux il était. C'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être un mythe.
Mais ça dépend des variétés, parce que je crois que celui de Cavaillon a plusieurs stries par rapport aux autres aussi.
Ok. Donc, moi je parlais du celui
bon, la densité, le poids, le pédoncule. Alors, le pédoncule, il doit être quoi? Il doit se détacher, pas se détacher?
Craquelé. Prêt à se détacher, justement.
Et l'odeur,
ça,
on me dit quand il sent rien, c'est bon signe, parce qu'il paraît que tous les arômes sont à l'intérieur, et quand il sent, on dit c'est bon signe aussi.
Mais parfois, ça peut arriver qu'il sente pas grand chose et qu'il soit bon. Franchement, on essaye tous les ans de faire.
Mais c'est vrai, mais je le répète à chaque fois.
Je vais dire la vérité, il y a un peu un côté loterie parfois aussi.
C'est ce qui en fait le charme, d'ailleurs.
Allez, c'est l'heure de jouer à notre bruit de cuisine sur Europe 1. Nous vous offrons un superbe wok en inox de chez Christelle, accompagné de son couvercle de verre et sa poignée amovible qui lui permet de passer ainsi au four. Ce wok haut de gamme est garanti à vie sans PFAS, vous savez, les polluants éternels. Donc il est impeccable pour une cuisson totalement saine. Vous pouvez le retrouver sur christelle.com. Et nous ne sommes pas avec Christelle, mais avec Valérie. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour à vous tous.
Bonjour Valérie. Vous nous appelez
merci
d'où
de me recevoir.
Oh, bah avec plaisir.
En fait, j'appelle de Courbevoie, puisque c'est là où je travaille.
Vous faites quoi?
Je suis infirmière libérale. Et
ah, bah,
je travaille avec vous.
C'est gentil, et le monde médical est avec nous. Hein, salue justement tous ceux qui sont dans cette belle fonction du monde médical, des agents de service aux médecins, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignantes. On ne leur dira jamais assez merci, voilà, de nous aider.
Merci beaucoup.
À être en forme.
Merci, merci à vous.
Qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi, Valérie?
Alors, écoutez, là, je suis en tournée aujourd'hui, donc c'est mon mari qui va faire le poulet traditionnel.
Bien.
c'est lui, je l'ai formé, il fait bien.
Bien.
Et autrement, quand je ne travaille pas, je fais de la cuisine, bien évidemment, j'adore ça.
Allez, écoutons le bruit de cuisine, et c'est pas du poulet. Alors, Valérie.
Alors, écoutez, moi, j'aurais pensé à une ouverture de boîte de conserve. Pas facile, mais bon, je penchais là-dessus.
Eh oui, mais quel genre de boîte, alors?
Alors...
Boîte de sardines, une boîte de...
Alors, on dirait boîte de sardines, mais après qu'on aide avec un petit quelque chose pour finir l'ouverture.
On dirait bien ça. Eh ben, c'est gagné.
Ouais,
non.
Ah, si, si. Si.
Si. Oh, je suis trop contente.
Eh oui, Valérie. Un superbe wok en inox de chez Christelle pour vous, accompagné de son couvercle de verre et de sa poignée amovible qui lui permet de passer aussi au four. Et sans PFAS, pas de polluant éternel, donc c'est une cuisson saine qui vous attend à la maison.
Ah ben super, génial, merci beaucoup, vous êtes adorable.
Et bravo, et puis vous nous faites une belle transition parce que Thierry Marx nous rejoint dans un instant et il adore les sardines et on a un cadeau justement à lui offrir à propos de sardines. Restez avec nous, merci Valérie.
Bravo.
Merci à vous.
Bravo Valérie.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée du côté de Courbevoie. Nouveau bruit de cuisine que nous retrouverons tout à l'heure avec Thierry Marx. Écoutez. Alors, qu'est-ce que c'est? Loïc Vimard, notre réalisateur, s'est mis à la cuisine, mais aussi au bricolage. Mais nous ne sommes pas dans la partie bricolage. Hein. Là, on est dans la partie cuisine. Pour jouer avec nous, c'est simple, vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21. 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS.
La table des bons vivants, 11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir Thierry Marx. Il est l'une des figures populaires de la gastronomie française, chef étoilé et engagé. Il défend une cuisine innovante, accessible et responsable. Avec l'ouverture de 2 nouveaux restaurants ce mois-ci, il continue de faire rayonner sa vision de la gastronomie. Vision qui suscite quelquefois des controverses aussi dans la profession, il va nous en parler. Il déteste les abats, mais adore le maquereau. Il est avec nous. Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Ça fait 7 ans que nous sommes là au Sudo Coluche. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Merci d'être avec nous.
Non, mais c'est un vrai plaisir. Merci de l'accueil. Et ça fait partie des émissions que je suis régulièrement parce que ça nous aide beaucoup pour défendre cette gastronomie française hein, qui est quand même très malmenée aujourd'hui. Et de défendre les restaurateurs, grands comme petits, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une zone de turbulence.
Et vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes président de l'UMI, hein, l'Union des métiers de l'industrie et de la restauration.
Oui, ça c'est si vous aimez prendre des coups, c'est parfait.
Mais vous faites des arts martiaux.
Oui. Non, mais ce qui est intéressant, la fin de mon mandat approche, mais ce qui sera intéressant, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'est ce métier, de voir qu'il y a encore un vrai engouement pour la cuisine d'auteur, il y a encore un vrai engouement pour la cuisine, mais que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité, tant les professionnels que l'État, si on veut continuer à protéger cette filière.
Ça veut dire quoi? Peut-être changer la convention collective? Peut-être
changer la convention collective, bien sûr, tout le monde la faire évoluer, et puis de regarder la fiscalité sur ces métiers de l'artisanat, parce qu'aujourd'hui, quand on vous interroge pourquoi un marchand de burgers va s'installer dans la ruralité, c'est tout simplement parce qu'un restaurateur, lui, ne peut plus le faire, parce qu'il a une TVA, une transmission de son patrimoine qui n'est plus possible. Et aujourd'hui, ce qui pèse sur nos petits restaurateurs comme nos grands restaurateurs, c'est cette faiblesse des marges qui fait qu'à un moment donné, bien, la moindre zone de turbulence, vous êtes à l'agonie. On ferme 20 restaurants par jour aujourd'hui, on c'est en ouvre 5, c'est clair.
Oui,
mais on en ferme 20.
Mais avant, on en ouvrait 20 000 par an en France et on en fermait 20 000. Il y avait une sorte d'équilibre. C'est un vrai décalage.
Aujourd'hui, le décalage, depuis, ça fait 10 ans maintenant, on voit que la restauration dite à thème, est en train de prendre le pas sur la restauration du fait maison.
Bon, on en reparlera aussi parce que c'est vrai que c'est toute la filière qui souffre, du bistrot, du routier au restaurant gastronomique. Quel est votre goût de la semaine, Thierry Marx ?
L'ail frais. J'étais au marché de Coulommiers, sur le marché de Coulommiers dimanche, et le premier ail frais est là, je vous le recommande à tous. Quand vous l'épluchez frais et que vous le lamez finement et que vous le mettez, vous l'incorporez à des pâtes ou à une tombée de tomates et vous le laissez à peine infuser, ça monte à 45 degrés, grand maximum, et là vous vous régalez, c'est simplement de l'ail frais.
Oui, il faut pas le cuire trop.
Puis j'ai dû payer les quatre têtes, j'ai dû payer ça à 1,50€.
Et voilà, donc local, de saison. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous, à la maison, en journée, je ne sais pas si ça vous arrive, ou le soir peut-être, mais quelque chose de je sais que vous êtes très attaché à la notion éco-responsable des produits aussi.
Oui, alors après, j'essaie aussi de sortir des éléments de langage. Je sais ce que c'est que de travailler, je sais ce que c'est d'avoir 20 minutes pour faire à manger, et mon meilleur ami est le micro-ondes, bien souvent. Et je peux faire très très rapidement une tombée de légumes et un bouillon très très vite, avec simplement un micro-ondes et une cafetière. Mais il faut aussi admettre que de lancer le message qu'on peut se faire la cuisine dans toutes les conditions possibles, j'en ai connu des conditions difficiles pour faire la cuisine, c'est aussi se protéger de l'agroalimentaire qui, elle, vous propose une cuisine qui n'est pas forcément bonne pour votre impact santé.
Alors, cuisine, parfois, que vous défendez aussi. Vous vous accoquinez parfois à certaines marques pour nous faire manger des choses préparées.
J'aime bien que vous me posiez cette question. Alors, ce n'est pas accoquiner. Moi, j'ai toujours eu une agence de recherche et développement que j'assume et qui paye aussi beaucoup de mes collaborateurs dans les restaurants, et ce n'est pas si mal. Après, accoquiner, on ne peut pas s'accoquiner avec une marque qui fait du grand froid, par exemple. Je crois qu'on n'a pas le droit de citer une marque. Mais quand vous faites rentrer 80% de l'agriculture française dans ce que vous faites, et c'est un one-shot d'une année. Après, quand on dit agroalimentaire, personnellement, et c'est vérifiable, et ça a été vérifié d'ailleurs, je n'ai jamais eu aucun contrat avec l'agroalimentaire. Mais il suffit de le dire pour qu'on le croie. Donc ça, c'est dommage. Après, d'avoir travaillé avec la grande distribution, c'est vrai, mais j'ai investi mon propre argent. J'ai fait une cuisine centrale et j'ai investi mon propre argent. Ça n'a pas marché d'ailleurs.
Et il y a eu des chefs avant vous qui l'ont fait. On peut penser à Michel Guérard qui s'était justement lié à Findus pour faire des plats préparés. Vous pensez que c'est le rôle du chef aussi justement d'être sur plusieurs terrains comme ça ?
C'est l'une de ses compétences. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez croire ou laisser croire ou ne croire vous-même que vous pouvez améliorer l'impact. La valeur artisanale, elle peut aider par moment l'industrie. Mais en même temps, il y a aussi cette relation d'image. En tout cas, très honnêtement, je voudrais bien d'ailleurs, mais je n'ai jamais eu de contrat avec l'agroalimentaire.
Alors, on vous retrouve dans nos cuisines grâce à certains, justement, plats, mais aussi, vous avez une actualité chargée en ce mois de juin. Deux ouvertures de restaurants. Il y a Reseda au Grand Palais à Paris, et la maison Westmann près de Bergerac. On va commencer par Reseda. Qu'est-ce que vous proposez dans ce lieu emblématique de la capitale pour
Alors, emblématique avec une... On n'a pas beaucoup d'impact de chauffe pour faire la cuisine, donc on sélectionne des produits que l'on transforme sur site avec la possibilité de les transformer sur site. On ne peut pas dire on va tout faire et on va faire du gigot de 7 heures. Il faut adapter une cuisine, c'est plutôt des salades, c'est plutôt du snacking, c'est plutôt des choses comme ça.
Je sais que vous aimez beaucoup les sardines aussi, Thierry
Marx. Beaucoup, et le maquereau.
Et le maquereau, oui.
Alors maquereau, hareng, sardine. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours à la maison. Je vous en ai amené d'ailleurs. Je vous ai amené des harengs, pommes à l'huile.
Ah, bah magnifique.
Et vous allez voir, moi, c'est un plat que j'adore, parce que je fais mes harengs et je fais mes maquereaux marinés. Je les garde et au micro-ondes, quand j'ai pas le temps, une pomme de terre à la peau, cuite dans de l'eau, et je pose ça avec soit un hareng, soit un morceau de maquereau. Et ça me,
de la cuisine simple avec des produits dont on connaît la traçabilité. Alors, échange de bons procédés, ce sera votre plat du jour dans un instant. Moi, je vous offre, regardez, un bel assortiment de boîtes de sardines millésimées.
Ça, c'est génial.
La Belle Illoise 2020, c'est
tout
pas
ça,
cher.
Ça rentre, oui, ça rentre dans votre quotidien pour 2,50€. Quoi.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Et Elle est là, la table. Elle est dressée. Heureux de vous retrouver à table comme tous les samedis de 11h à midi et demi sur Europe 1. Merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Et puis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant avec mes bons vivants du jour, Chef Enzem et Emmanuel Rubin. Et puis, notre invité que nous sommes très heureux de recevoir parce que ça fait longtemps qu'on voulait qu'il vienne nous retrouver à cette table. C'est Thierry Marx. Ça va? Merci. Tout se passe bien, Thierry?
Tout se passe bien dès lors qu'on entend bon et vivant.
Oui.
Ça veut dire que tout va pas si mal.
Quoi. Bon, c'est un mot qui vous est cher, ça. Hein,
ouais. On a créé avec Romain Jubert le magazine Bon qu'on relance là. Et alors après, il faut définir ce qu'est le bon. Mais en termes de produits, de cuisine, il y a des choses à argumenter sur le bon.
Alors, autre grosse actualité pour vous en ce mois de juin, c'est l'ouverture de la maison Weissmann au cœur d'un vignoble près de Bergerac. C'est toujours une actualité chargée hein, quand on vous reçoit. Il y a toujours beaucoup de choses vous concernant, Thierry. Bah,
c'est-à-dire qu'il faut aller chercher du business. Parce qu'il faut parler... On a toujours l'impression qu'il y a un côté très politique chez les chefs. Le business, c'est pas pour nous, et c'est ça. Mais dans chef, il y a aussi chef d'entreprise, chef et chef eux d'ailleurs, et d'aller chercher du revenu et puis de pas brûler son âme non plus. Et là, on a... un actionnaire qui se passionne pour le vignoble français, qui investit dans du vignoble français, un vignoble qu'on méconnaît un petit peu, ou qu'on a bien connu à une époque, mais qu'on méconnaît un peu aujourd'hui. Il investit beaucoup, il fait un bistrot de campagne, ça me rappelle un peu les années Bages, les années Cordillon-Bages. Et là, on va faire une cuisine très simple. Hein. On est vraiment sur la cuisine de la ruralité, avec une charcuterie très rurale. Hein. On est dans le village d'Issijac, à côté, là, enfin juste à côté, à 2 km du village d'Issijac. Bon pain, bonne charcuterie, bon fromage, bonne cuisine, parce que le chef qui a été pressenti est un très jeune chef, mais qui a déjà un parcours professionnel et qui veut se réinstaller en ruralité, parce qu'il y a aussi une opportunité pour les jeunes chefs d'aller en ruralité. Et ce que je fais depuis de nombreuses années chez chaque chef, est actionnaire avec moi de l'entreprise.
Ils sont impliqués.
Ils sont impliqués, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, le turnover des chefs, j'en ai un peu moins, et puis ils constituent un capital pour le jour où ils veulent s'installer. Je crois que c'est aussi une façon de regarder une autre économie par rapport à nos métiers.
Alors justement, vous parliez d'émotion grâce à la cuisine, on va en vivre une grâce à vous avec le plat du jour, un plat que vous aimez, qui vous est très cher. Alors c'est un hareng...
Un hareng pomme à l'huile, tout bêtement. Plat de bistrot, certes, mais plat du milieu populaire d'où je viens, hein, l'Europe
Belleville.
De l'Est, et Belleville, Ménilmontant, et c'était vraiment des plats qui étaient servis soit à la maison.
Ah oui, mais attendez, il a de la gueule, le hareng pomme à l'huile.
Non, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je vous ai ramené un plat très classique français.
Ah bah oui.
On a toujours l'impression qu'il y aurait un conflit sérieux entre tradition et innovation. Mais là, vous avez une pomme ananas. Confite, beurre clarifié, pomme nouvelle, on a la pomme nouvelle qui est arrivée là, et il n'y a pas besoin de laver, on épluche simplement, on tranche et on monte une pomme ananas avec du beurre clarifié.
Comme le gratin dauphinois, alors ça, le gâteau de pomme ananas, c'est magnifique, ce sont des pommes de terre superposées, taillées en fines lamelles avec un beurre clarifié, c'est un beurre qui a été chauffé, dont on a retiré le petit lait, donc il ne brûle pas, et il peut comme ça bien diffuser son parfum.
Hein, exactement, avec un savoir-faire de nos ferblantiers, finalement, d'avoir la bonne casserole en cuivre pour le faire. C'est une casserole increvable. Et on a un plat qui peut aussi servir pour la tarte tatin, d'ailleurs, qui est assez...
Oui,
complètement. Une poêle sans queue, finalement. Et il y a intérêt aussi à savoir préserver
ça, c'est bon,
notre hein. savoir-faire de cuisine dite classique, parce que aujourd'hui, on a une demande des jeunes gens qui nous disent « Mais c'est quoi un jus de viande? C'est quoi un jus de volaille? C'est quoi un quasi-confit ?» etc., etc. Et... pour des fois une génération qui a perdu un peu des repères de gastronomie, on voit que la crêpe Suzette, par exemple, parce que c'est instagrammable, les jeunes gens viennent s'intéresser à nos métiers et dire « je veux apprendre aussi la crêpe Suzette ».
Et vous revenez à ces classiques parce que vous avez été aussi un des, comment dirais-je, des précurseurs de la cuisine moléculaire
oui.
en France.
Mais parce qu'on n'a pas su, d'abord, moi personnellement, je n'ai pas su expliquer ce qu'était la cuisine moléculaire.
On a eu du mal à comprendre. Hein.
Ça ne peut pas être une tendance de cuisine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fait comprendre, c'est les scientifiques avec qui je travaille, et encore aujourd'hui, qui me disent « Mais t'es fou, c'est pas une tendance de cuisine. Ça ne peut être qu'un outil de compréhension pour transformer les choses. » Ah bah alors là, ça part d'autre chose. Et quand vous parlez d'impact environnemental sur la cuisine, par exemple, je vous donne le haricot vert. Moi, j'ai appris les haricots verts, 10 litres d'eau, 1 kilo de haricot vert, beaucoup de gros sel dans l'eau et de l'eau glacée pour fixer la chlorophylle. Un, la chlorophylle ne se fixe pas. Et pourquoi vous voulez mettre de l'eau dans un produit qui a déjà 90% d'eau? Ça n'a aucun sens. Donc, un moment où il faut économiser l'eau et la valeur énergétique, vous avez intérêt à réapprendre les choses. Bah, l'étude de transformation d'un produit peut être intéressant, puis être intéressant aussi pour le futur. Quel va être le futur de cette gastronomie? Il va falloir rééquilibrer tout ça.
Alors, cuisine moléculaire il y a longtemps, cuisine assez classique, en fait, aujourd'hui. C'est quoi le style Thierry Marx, vous diriez ?
Je me fous du style. Je n'ai pas de conflit entre tradition et innovation, c'est tout.
Emmanuel Rubin, vous qui écrivez dans Le Figaro, vous avez eu l'occasion plusieurs fois de goûter la cuisine de Thierry Marx. Comment vous la définissez ? Qu'est-ce que vous trouvez dans le style de Thierry Marx ?
Très compliqué. Mais il vient de le dire, il n'y a pas un style Marx. Alors, on peut le revendiquer, mais moi, je suis incapable de la définir. Effectivement, Thierry Marx a émergé avec talent au moment où cette cuisine moléculaire faisait parler d'elle, fin des années 90, début des années 2000. Bon, aujourd'hui, on dit qu'à l'époque, on nous imposait comme c'était l'avenir de la cuisine. Et puis, quelques gens un peu plus cortiqués savaient que ce serait qu'une future de la cuisine, c'est-à-dire de la science-fiction. On n'était pas beaucoup à le dire, on a eu raison. Donc ça, c'est le Marx moléculaire il y a quelques années. Pour l'instant, le reste, Marx, ben, Marx c'est au restaurant au Nord, Marx c'est dans une gare, Marx c'est à Bergerac, Marx c'est dans un restaurant.
Mais c'est ce qu'il disait, c'est le style en fonction de l'endroit, voilà. J'ai l'impression.
Donc, du coup, quand on me demande quel est le style Marx et le style de la cuisine Marx, c'est quoi ? C'est au Nord, c'est son bouillon à Saint-Ouen, c'est peut-être tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il s'intéresse plus au genre du restaurant qu'à la cuisine. Je ne pourrais pas vous citer un plat signature, je ne pourrais pas vous citer son style. Il vient de l'évoquer d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Après, je dis quand même que on parle de Robuchon, il y avait un style Robuchon, on parle de Deligne. Deligne n'avait pas de style, mais l'incarnation d'un style classique.
Ça vous est égal d'avoir un style plutôt qu'un autre, en fait, Thierry Marx.
C'est-à-dire que moi, ce qui a été retenu quand j'étais accordéon-bâche, il y avait le risotto de soja, et c'est ça. Mais maintenant, je crois que c'est l'adaptabilité qui fait la règle. Et il faut voir là où vous installez, être capable d'imprimer quelque chose. Et deux, laisser la chance aussi aux jeunes cuisiniers-auteurs. Moi, je travaillais avec Ricardo Silva, qui est à Honor, qui est un garçon formidable, qui vient de l'international, qui a passé un peu de temps chez Pierre Gagnère à l'international. Et ça fait 15 ans qu'il est avec moi. Maintenant, c'est à eux d'aller chercher leur signature. Moi, je crois à l'importance en France des chefs signatures.
Moi, je vois une signature dans le hareng.
C'est ça.
On va revenir à ça quand même, à ce plat qui est un vrai plat de bistrot, comme vous nous l'avez dit. Mais attention, il y a des choses à respecter pour qu'il soit bon, justement. Pommes de terre nouvelles, comme vous l'avez dit, et assaisonné à chaud, j'imagine.
Exactement, jamais de frigo.
J'ai l'impression qu'il y a une note de vinaigre qui est très plaisante à l'intérieur.
C'est un vinaigre de la région de Saint-Lucar-des-Barramèdes, qui est le sud de l'Espagne, où on assume de faire des vinaigres. Moi, j'ai fait longtemps des vinaigres dans le Bordelais, mais il ne fallait pas le dire. Mais après, je me suis beaucoup inspiré, pas des vinaigres italiens, parce qu'ils me coûtaient très cher, et finalement, ils étaient un peu galvaudés. Or que le vinaigre de Saint-Lucar-des-Barramèdes, donc vous voyez, c'est la pointe, la corne de l'Espagne, là. Et je vous recommande ces vinaigres qui sont des fois extraordinaires. On sait faire des vinaigres, il y a un vinaigre dans lequel Vado, ça veut dire de cidre qui est réduit et qui est exceptionnel, mais on en vend 200 bouteilles par an.
Mais ils sont très méconnus, ils sont difficiles à être trouvés par le grand public, ils vont plus se diriger vers forcément les vinaigres italiens, même si, mais c'est vrai que ce sont des vinaigres
qui... Surtout, il y a une capacité à faire du vinaigre de vieillissement qui donnait un relief à un plat sans écraser un plat.
J'ai vu au fût de chêne des vinaigres qui étaient dans des fûts de chêne, effectivement, qui donnent
avec l'évaporation. Mais pour en revenir sur le style, il faut aussi... moi, aujourd'hui, j'aime bien travailler en direct face à mes clients. C'est ce que je fais à l'atelier du 11e. Et voilà, j'ai un petit atelier privé. On peut voir de la découpe. Et moi-même, je continue à apprendre parce que dernièrement, j'étais sur un réapprentissage de la coupe du poisson avec Okuda. Donc, tous les mois, je m'offre de ne pas perdre le geste.
Mais ça, c'est un métier fantastique pour ça, parce qu'on en apprend tous les jours, que ce soit sur l'origine des produits, sur la manière dont est cultivé un produit, élevé un animal, et l'abattage aussi. Vous faites attention à la protéine animale, vous faites partie de ceux qui disent « mangeons moins de viande, mais mieux, quoi, mieux élevé ».
Mieux pour nos éleveurs et pour nos producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tout poulet... ça n'a pas vraiment de sens, or qu'un poulet... et le tout label n'a pas vraiment de sens non plus. Il nous faut garder en France des poulets de qualité, mais entrée de gamme, du bon pour tous. Le problème, c'est qu'on s'est privé de poulets d'entrée de gamme, au mérite de poulets label qu'on subventionne, d'ailleurs bien souvent, et de se dire, eh bien non, il nous faut un poulet d'entrée de gamme si on veut remettre du poulet français dans nos cantines scolaires.
Et si je peux me permettre aussi, parce que vous parliez de viande, mais on est intervenu dans une même tribune, dans un même journal, sans le citer, et vous parliez aussi du poisson et notamment de l'anguille que vous avez arrêté de servir dans vos restaurants pour des soucis écologiques également.
Pourtant, je suis un fan de l'anguille, et de l'anguille, moi j'en faisais dans l'estuaire de la Gironde, donc on travaillait, on récoltait les anguilles, et puis j'ai vu l'explosion de la pibale, donc de cet alevin d'anguille, parti en Asie. Et
avec
puis, finalement,
un marché parallèle hallucinant.
Et aujourd'hui, vous voyez, on a su le faire pour le cabillaud. Sur l'anguille, on ne sait pas le faire. Il suffit d'attendre 4 à 5 ans. Et c'est pas fou, donc on va pas tuer les pêcheurs d'anguilles.
On pourrait le faire sur le thon, on pourrait le faire sur le saumon aussi.
Bien sûr.
C'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Europe 1 vous offre un super wok en inox de chez Christelle, accompagné de son couvercle de verre et sa poignée amovible qui lui permet de passer aussi au four. Un wok haut de gamme, garanti à vie, sans PFAS, vous savez, les polluants éternels. Et nous sommes avec Benjamin au téléphone. Bonjour Benjamin.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour au chef Thierry Marx.
Bonjour. Fidèle au poste, absolument, avec sa belle veste bleue.
Ouais.
Et il aime bien ses vestes bleues, Thierry Marx.
J'ai pas misé sur mon look, moi. Je fais pas les agences de casting. Donc.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin?
Eh bien, écoutez, je suis notaire à Poitiers. Voilà, donc.
Il n'y a pas de restaurant dans le coin avant.
Il est militaire?
Notaire.
Notaire.
Parce que comme vous ouvrez beaucoup de nouvelles adresses, il y a peut-être quelque chose du côté de Poitiers.
Non, mais il faut aller se battre en ruralité.
Oui, bah alors là,
c'est ça, vraiment. C'est ça. Avant, on allait jusqu'à Corday-en-Bage.
Ouais, mais il faut, je veux dire, il faut se battre.
Alors, on écoute le bruit de cuisine, cher Benjamin. Alors, Benjamin.
Alors, je pensais à une noix de muscade que l'on râpe.
Ah oui, mais je serais parti sur ça.
Moi aussi. Bah, pareil.
Moi aussi,
c'est ce que je disais.
Oui, mais à la fin, j'ai remarqué que non.
C'est de la râpe quand même. Hein.
C'est de la râpe quand même, et c'est un geste que je vous ai vu faire de nombreuses fois, Thierry Marx, à la télévision, dans vos restaurants. C'est un geste que vous aimez bien faire parce que c'est une saveur que vous défendez.
Ouais.
Voilà, j'irai pas plus loin.
La râpe daikon, peut-être.
Non, c'est pas du daikon. Mais c'est autour de ça. Vous n'avez pas tout perdu, vous savez quoi? Je vous envoie un livre de la rédaction, Benjamin, et puis un an d'abonnement.
Oh, parce qu'il a la moitié bon, la râpe, quand même.
Oui, et puis on vous envoie bon quand elle ressort la revue de Thierry Marx. Voilà.
Ah, bah écoutez, c'est adorable. Un grand merci, en tout cas. C'est une joie de vous écouter.
Et bah, c'est gentil.
Il faut être très courageux pour investir dans la restauration, mais très courageux pour investir dans la pâtisserie.
Dans l'édition.
Dans l'édition. Non, là, c'est de la folie.
Oui. Mais il y a des contre-exemples avec justement des succès.
Avec des petits vieux.
Inscrivez-vous pour jouer avec nous la semaine prochaine. Envoyez un SMS avec le mot cuisine au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Demain dans Dis-moi ce que tu chantes, Didier Barbelivien recevra la navigatrice Maud Fontenoy et reviendra sur les 5 chansons qui ont marqué sa vie. Demain de 17h à 18h sur Europe 1. On reste à table jusqu'à midi et demi avec Thierry Marx qui va passer sur le grill des bons vivants. Et puis on fera petite allusion aussi à un article d'il y a quelques semaines dans Le Monde qui vous malmenait un petit peu, Thierry Marx.
Oui, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai un peu compris pourquoi.
Mais c'est intéressant de vous entendre, je trouve.
Ah, bien sûr.
Eh ben, on l'entend toujours calme, il est toujours zen, Thierry Marx. Qu'est-ce qui vous énerve?
La mauvaise foi, souvent. Ouais. C'est-à-dire que ce qui peut énerver aujourd'hui, c'est de développer des choses sans en prouver la racine.
Eh ben voilà.
Et d'être après de faire la vierge effarouchée en disant il y a des fake news.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et ils sont là, mes bons vivants. Nabil Zemouri, alias Chef Enzem sur les réseaux sociaux, et Emmanuel Rubin, que bien entendu vous pouvez lire dans le Figaro. Et puis notre invité, le chef Thierry Marx, qui ouvre Reseda au Grand Palais, et puis la maison Westman près de Bergerac. On en a parlé dans un instant. L'importance aussi pour vous, voilà, de se rapprocher de notre ruralité qui était un petit peu parfois mise de côté. Hein.
Non, il y a une vraie inquiétude sur la ruralité. On voit aujourd'hui, moi, ce qui m'ulcère quand je traverse la France, et ça m'arrive quand même très souvent, de voir un distributeur de pizza automatique, de plus voir de bistrots de campagne. Et d'ailleurs, avec les buralistes, on va essayer de faire ce qu'étaient les bistrots de campagne. C'était des tiers-lieux. On trouvait un peu d'épicerie, ce qu'on appelait un bistrot humide, avec un plat du jour, et on trouvait quelques produits à vendre. Mais il faut refaire ces lieux de
convivialité. Il y a eu une tentative avec les bistrots de pays, à un moment, qui était un petit label, mais ça n'a pas beaucoup tenu. Il y en a quelques-uns qui ont résisté, j'en connais un.
Ça n'a pas tenu parce qu'il y avait une volonté politique, mais ce qu'il faut, c'est de ramener des gens qui gagnent leur vie avec un bistrot de campagne. Dès lors que un couple va gagner 2 000, 3 000 euros par mois, Et il dit, bah, j'ai intérêt à faire fructifier ça. Et moi, on en a ouvert quelques-uns, un à Souillac et un qui est en Bretagne. Il y a un peu de jardin, il y a un peu de restauration, un peu de débit de tabac, ce qui est le premier agent de l'État, d'ailleurs. Et c'est ce qu'il faut continuer à entreprendre pour ramener à la ruralité de la vie. Quoi.
Comment vous voyez l'avenir de la restauration et des restaurants, vous, président de l'UMI, hein, ce grand groupement
industriel de la restauration ? Je ne veux jamais être négatif. Aujourd'hui, il y a une zone de turbulence qui est à traverser. Elle fait partie de façon assez récurrente de ces zones de turbulence. Il faut que ce pays, ce métier se réforme aussi, oui. Hein, sur l'impact, l'attractivité métier.
On l'a vu avec le Covid, hein. Il y en a plein qui sont repartis chez eux et qui ne veulent plus travailler les week-ends et plus travailler les soirs.
110 000. Et il faut ramener, il y a plusieurs sujets de fond. C'est-à-dire qu'il y a un sujet politique. C'est-à-dire que pourquoi le travail n'émancipe plus en France? C'est tout le sujet. C'est-à-dire que
tant que ce métier, il excite tout le monde. Il regarde tous Top Chef. Ouais. Le chef est devenu une star. On se réveille le matin, il y a un chef. On se couche le soir, il y a un chef. Ouais. L'attraction, elle est là.
C'est vrai.
En revanche, derrière, il faut dire les mots, puisqu'on est dans la politique, dans le journalisme, dans la sincérité.
Ne criez pas, vous êtes sonorisé.
Oui, d'accord. Bah, les mots, vous allez bien les entendre. Ouais. Est-ce qu'on a envie de travailler? Est-ce qu'on a aussi le droit à la valeur travail et à la valeur d'autorité? Lorsqu'on rentre dans un restaurant, il faut aussi apprendre à obéir et apprendre à apprendre.
Ouais.
Or, je ne sais pas si l'époque a envie de ça.
Ouais. Et c'est la rigueur, non mais tout à fait. Notre métier, c'est quoi? C'est rigueur, engagement, régularité. Après, la rigueur, il faut l'apprendre. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas jouer, encore une fois, les vierges et fachourées si vous dites « Ah, c'est drôle, j'ai vu Top Chef, c'est formidable. Bah, » Ouvrir une coquille Saint-Jacques à la télé, c'est drôle. En ouvrir deux bio avant le service,
bien sûr.
C'est un vrai
exactement.
Métier. Vous voyez, c'est ça où il faut ramener
un peu le jeu. Je vous confirme.
Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné...
C'est tout le paradoxe et l'ambivalence.
Bien sûr.
Exactement.
Il y a autre chose, si je peux me permettre. Il y a effectivement l'aspect du côté chef et de la rigueur, l'autorité, la bonne transmission. Et puis, au rôle aussi du côté de l'État, est-ce que la pression fiscale pour les restaurateurs, elle n'est pas énorme?
Elle est
étouffante, elle est écrasante. Qu'est-ce qui gagne le restaurateur?
La pression fiscale et la pression normative, tout est aux normes. Aujourd'hui, vous n'êtes même plus contrôlé par l'État, vous êtes contrôlé par des organismes indépendants qui vous vendent d'autres trucs. Et deux, il va falloir accepter de se mettre autour de la table avec les organismes salariés, les organismes professionnels, enfin les organismes patronaux, et l'État, dire pourquoi le travail n'émancipe plus. Ça fait 40 ans. 40 ans. Mmh. Aujourd'hui, quand je donne 2000 euros à quelqu'un, quand il rentre dans le métier, en gros, votre salaire brut est de 2000 euros. La personne ne comprend pas pourquoi il lui reste 1400 euros. Mmh. Donc la tentation, c'est d'aller vers l'ubérisation.
Oui, c'est ça.
L'ubérisation du métier, l'auto-entrepreneuriat. Et ça, c'est dangereux, quid du modèle social français. Donc cette dérégulation, aujourd'hui, quand on parle de valeur travail, le travail n'est pas une valeur, c'est un moyen de vous épanouir. Si vous ne pouvez pas vous loger. D'ailleurs, premier combat que j'ai mené 15 jours après mon élection à l'UMI, c'est d'avoir négocié avec Action Logement pour, un, la garantie vissale pour que les gamins n'aient plus à avoir de caution pour louer un appartement, et deux, de développer des immeubles rénovés dans les, dans les villes et dans les villages pour qu'on trouve un logement à 400 euros.
Ça, c'est très important de dire. Non, il y a de nombreux chefs, nombreux chefs qui eux-mêmes investissent pour pouvoir loger leur personnel.
Et on les fiscalise.
Ça, c'est vrai. Ouais. Absolument. Vous êtes un ardent défenseur de la formation professionnelle. Vous avez créé Cuisine Mode d'Emploi, Thierry Marx. Vous proposez des parcours d'insertion à des personnes éloignées de l'emploi en les formant. Comment ça marche? Où en sont ces écoles et ces personnes?
Alors, ça marche assez simplement. C'est un modèle qui ramener des personnes qui étaient éloignées d'un projet métier, voire très éloignées d'un projet métier en précarité ou des accidents de parcours, de les ramener dans l'idée de choisir les métiers de l'hôtellerie-restauration. Ça a tout de suite bien fonctionné. Et nos écoles existent depuis plus de 15 ans maintenant. C'est 90% de retour à l'emploi. Le problème, c'est que sur cette planète, rien n'est gratuit. Hein, on dépense de l'argent pour faire en sorte que on paye nos professeurs, et l'outil de travail, et deux, de dire aux personnes qui sont là, de dire, attendez, vous n'avez rien à sortir en numéraire, mais il y a une monnaie d'échange. Et la monnaie d'échange s'appelle RER, rigueur, engagement, régularité. Donc rigueur, je m'explique là-dessus. Rigueur, c'est votre projet, c'est votre verticalité. Engagement, c'est lâcher la main du passé. Quand le passé était un peu compliqué, vous avez peut-être besoin d'aide. Là, on peut être là pour vous amener de l'aide. Régularité, on va se dire que pendant les 12 semaines de formation, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. C'est 90% de retour dans un projet métier et ça a été 7% de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, je lisais un article il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, il a profité de l'UMI pour faire valider ses écoles. Pas du tout, elles ont 20 ans et je suis élu à l'UMI depuis 3 ans. Et voilà, ça me suffit.
On va en parler de cet article justement. Dans Le Monde du 24 mai dernier, vos confrères et des critiques mettent en cause vos contrats avec les acteurs de l'industrie de la grande distribution. Ils pointent un mélange des genres indigestes. Qu'est-ce que vous dites à ces écrits et est-ce que vous comprenez ces reproches?
Moi, je peux tout comprendre d'un journaliste. Et je suis pour le journalisme libre. Il faut étayer. C'est-à-dire que quand vous dites que quelqu'un est un lien avec l'industrie agroalimentaire, laquelle?
Je vais vous dire la vérité, moi, Thierry Marc, je vous suis. Il y a quelque chose où j'ai eu du mal à vous suivre, c'est vos boissons et vos repas en poudre. Vous avez fait des repas en poudre en nous disant on n'a pas le temps de manger le midi et plutôt que d'acheter un mauvais sandwich chez les boulangers, manger mes repas en poudre.
C'était pas des repas en poudre, c'était des barres.
Il y avait des trucs en poudre avec de l'eau qu'on mettait dedans.
Ah, mais c'était pas moi, ça.
Feed, c'était
une barre. Moi, j'ai fait qu'une barre pour Feed.
D'accord, oui,
alors ça fait
C'est ce qu'ils ont reproché, je pense.
Alors après, qu'on me disait, je fais ça, je me suis planté, j'y ai cru, moi je me suis planté, voilà. J'ai revendu tout de suite. J'ai cru à plein de choses, je me diversifie. Mais dire, il est lié à l'agroalimentaire, c'est faux. Que les écoles aient été financées par qui que ce soit, c'est faux aussi, on se débrouille par nous-mêmes.
Et vous l'avez dit, vous avez le droit aussi de faire des partenariats pour pouvoir avoir d'autres projets.
Bien sûr, mais je n'ai pas eu beaucoup de partenariats, j'ai eu un partenariat avec la SNCF, qui a été très intéressant et que je revendique. J'ai eu un partenariat avec ENAF, juste pour parce que c'est la seule boîte qui peut faire l'alimentation des astronautes. Et c'est la seule en Europe, hein, et on devrait en être fiers. Donc voilà, après, quand on me dit il y a eu des partenariats.
Et les croquettes pour chiens, pour le coup, c'est.
Ah, mais ça, j'adore. Ça, c'est une boîte à Castelsarrasin. J'adore. Ça m'éclate. Okay. Moi, j'ai un chien, un chat.
Il a un côté provoque quand même.
Ah, ouais, j'ai adoré ça.
Emmanuel Rubin.
Ah, mais moi, je pense que le papier. Il n'arrive pas innocemment, alors d'abord bravo à vous, et c'est sincère de respecter la critique, vous avez raison, elle doit être étayée ou pas, vous ne vous défilez jamais, et vous emmerdez pas trop les gens lorsqu'on vous attaque. De respect. Pour autant, cet article, il ne peut pas venir de nulle part. Alors il n'est peut-être pas étayé, mais c'est justement parce que vous êtes très contradictoire. Vous faites tellement de choses, vous êtes tellement omniprésent, tellement omnitotent, tellement hyperactif, hypermédiatique, tellement dans « je vais chercher le business », comme vous le dites. Mais dans le même temps, vous nous dites « sans perdre son âme ». Tout cela, le problème, c'est qu'on a tous ces discours, on n'en a plus aucun. Ça devient inaudible. Et ça va même au risque de la contradiction. Et je pense que ce papier-là, peut-être que sur chaque ligne, il est contradictoire, peut-être que vous pouvez l'attaquer, mais il ne vient pas de nulle part. À un moment donné, on a du mal à entendre quel est l'écho dans les murs de la maison, ou plutôt des maisons de Thierry Marx. Et c'est pour ça que le papier sort.
Oui, bien sûr, mais j'ai pas d'animosité. Donc l'idée, quand on me dit « il a fait à manger pour des chiens », et je veux dire que c'est une boîte à Castelsarrasin avec des canards et on fait des croquettes absolument sublimes. Et je me suis dit, ouais, je vais pas passer à côté de ça. C'est marrant, on l'a fait. Et voilà.
Vous assumez, mais voilà. Le grill des bons vivants pour le plaisir et la douceur. Ouais, c'est parti. Quel est le plat de votre enfance, Thierry Marx?
C'est le hareng pomme à l'huile. C'est vraiment le plat de mon enfance. Il y en avait toujours sous la fenêtre du 140 rue Ménilmontant. Il y avait beaucoup de Polonais. Ils mangeaient beaucoup de produits gras comme ça, des harengs fumés et ça. Et ma grand-mère le mettait, il y avait une fenêtre, et puis dessous, il y avait le dessous de fenêtre, on gardait ça, il n'y avait pas de frigo, on gardait ça là-dessous.
Que trouve-t-on toujours dans votre frigo personnel, tiens, Thierry Marx?
Sardines, œufs, beurre et pain de seigle.
Tiens, qui sont les invités de votre dîner idéal?
Des potes, Enki Bilal, je ne vais pas dire que Edgar Morin est un copain, mais c'est un monsieur avec qui j'ai passé beaucoup de temps, et j'aime beaucoup sur la pensée complexe. Et puis il y a plein de gens, Clovis Cordiac.
Toute la rédaction du monde.
Ouais, mais j'ai aucune rancune.
Non, mais
aucune
ça glisse sur Thierry Marx, c'est ça qui est bon.
Mais c'est vrai, bravo, moi je suis
admiratif de
truc,
ça.
Le truc, c'est qu'on vous tabasse, mais il y a des gens, moi Enki Bilal, quand je discute avec lui, d'abord il m'aide beaucoup pour les blessés de guerre, et c'est des gens qui ont une réflexion, capable de s'élever sur une situation. Moi, je vois quand Enki me dit il y a un double monde aujourd'hui, il y a le monde dans lequel on est, on vit sur Terre, et puis un monde parallèle qui est le monde des réseaux sociaux. C'est un monde à la Matrix, finalement, qui est autour de nous.
Complètement.
Et si vous ramenez ça à l'univers des chefs, aujourd'hui, est-ce qu'on consomme de la cuisine ou est-ce qu'on consomme des chefs? C'est tout le sujet. Moi, je me rappelle, quand j'étais chez Chapelle, il y avait, par exemple, la langouste à la verveine. On regardait le plat, on disait, c'est du Chapelle, ça c'est du Robuchon, ça c'est du Deligne, ça c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il a des dreadlocks? Est-ce qu'il en a pas? Est-ce qu'il est en t-shirt? C'est plutôt
est-ce
pareil.
Est-ce qu'il est tatoué ou pas?
Et j'en parlais avec un de vos confrères.
Est-ce qu'il est rasé ou pas?
Ouais, j'en parlais avec un de vos confrères, il disait, oui, parce qu'il n'y a plus d'œuvres. quand on prenait l'œuvre d'un Alain Chapelle, c'est 40 années de métier, d'un Rebuchon, c'était pareil. Aujourd'hui, on a besoin d'une image, et c'est l'époque. On n'a pas à juger ça, c'est l'époque. Donc il faut se faire à ça.
Quel est votre plaisir inavouable? Quelque chose qu'on peut vous imaginer ou pas? Non, manger.
Le seul plaisir inavouable, c'est que je suis pas capable de commencer une tablette de chocolat sans la finir.
Oh, ça va, ça va.
Ouais, mais ça devient de la goinfrorie.
Du noir ou du lait?
Alors, je vais dire un truc pas bien. C'est du noir et du lait en même temps. Donc, je superpose le chocolat.
Pas mal, là, d'accord.
Moi, je mettrais du beurre entre les deux.
Je rêve qu'un Patrick Roger me fasse une tablette bicolore comme ça.
Pas mal.
Ça pourrait être sympa.
C'est une bonne idée.
Un 80-20.
Et à propos, tiens, quel est le plat que vous auriez aimé avoir inventé, Thierry Marx?
C'est l'escalope de saumon à l'oseille.
Ah, Trois Gros.
Pierre Trois Gros, et c'est un salut à toute la famille, y compris.
Oui, absolument. César Trois Gros, Léo Trois Gros, Michel. Et le mot de la fin, FIM, Thierry Marx.
À profiter de la vie. Je vais vous faire la réponse que m'avait fait Paul Bocuse. Il m'avait dit j'ai tout fait en m'amusant. Et moi, je fais tout en m'amusant. Et deux, mon grand kiff, c'est le matin, vous voyez. Moi, je suis à 6h30, 7h moins le quart sur le tatami ou sur le ring ou au kendo.
T'as compris, Manuel Rubin?
Et c'est, ouais, c'est vraiment le truc qui va me permettre de mettre du temps entre l'émotion et l'action. Je suis bien après. Mais par contre, moi, je peux avoir des critiques. Et puis, ce que je dis souvent d'Emmanuel Rubin, je dis, putain, il m'emmerde parce qu'il écrit bien.
Voilà. Ouais, voilà, c'est un bon compliment.
Il me fait chier, il écrit bien.
Mais oui.
Donc, il y a des gars qui m'ont critiqué, qui m'ont descendu. Oui. Et je dis, qu'est-ce que je vais aller contre ça?
Su dire du bien. Mais c'est vrai que je vous ai souvent descendu,
c'était la réconciliation autour d'un rang pour ma vie.
On n'est pas fâchés.
Merci.
Non, on n'est pas fâchés.
Merci infiniment d'être venu, Thierry Marx. Merci beaucoup pour vos paroles, pour votre vision et puis pour votre capacité à répondre à tout ce qu'on a pu dire sur vous dans la presse ces derniers temps. Et merci d'être venu à cette table infiniment. Je rappelle l'ouverture de vos deux restaurants ce mois-ci, Reseda au Grand Palais et puis l'ouverture de la maison Westman près de Bergerac avec une belle cuisine, on va dire, rustique chic.
Et puis rustique chic, et puis dans le Reseda, n'oubliez pas le poème d'Arago, La Rose et le Reseda.
Ah oui, c'est vrai. Ah, je ne connaissais pas celui-là.
Ah, ben, je vous le recommande.
Ben, je vais le réviser. Merci Thierry Marx.
Merci.
Et merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou à la rédaction en chef avec Julien Amat, Claire Dutronc à la programmation, Loïc Vimard à la réalisation. La semaine prochaine, on se retrouve pour la fête de la musique avec Tina Arendt.